d'avoir organisé cette conférence. Donc, on est très heureux avec Rémi Duprat de vous présenter au Tréra. Donc, je vais présenter, parce qu'on n'a qu'un seul micro, je vais présenter d'abord Rémi, donc Rémi Duprat, qui a fait toute sa carrière à Framatome et principalement dans les réacteurs rapides. Il a même démarré sur Rhapsody, je crois que c'est ça. Hein. Alors, Phoenix. Essais de démarrage Phoenix, Super Phoenix, essais de démarrage aussi. Et plus que les essais de démarrage, le refurbishing, enfin la remise à niveau de Phoenix aussi. Enfin bon, il en parlera quand ce sera son tour. Mais on pourrait faire une conférence sur Rémi Duprat. Et donc, il a rejoint Autrera il y a 6 mois, 8 mois, je ne sais plus déjà. Février déjà, le temps passe. Et voilà. Donc, moi, je suis Frédéric Varenne. Donc, moi, j'ai fait toute ma carrière au CEA. Je suis un physicien des réacteurs à neutrons rapides. J'ai fait une carrière plutôt honorable au CEA. J'ai été chef du service de physique des réacteurs et du cycle à Cadarache. J'ai inventé le cœur d'Astrid. Je mets mes petits diplômes. J'ai été chef du projet Astrid sur les 4 dernières années. Après, j'ai fait un petit saut sur le projet New World, projet de petits réacteurs avec EDF. Et puis j'ai lancé Autrera. Donc Autrera, l'objectif, enfin l'idée d'Autrera, c'est un peu le titre. Bon, comme ça, voilà. Ouais. Donc c'est le titre est peut-être un peu communicant, mais enfin l'idée c'était de dire que on a cette question de besoin d'énergie, un besoin d'énergie bas carbone. Et je dis bien énergie. Quand je dis énergie, c'est pas obligatoirement que de l'électricité. On va le voir. Hein, c'est l'électricité de la chaleur. Et aujourd'hui s'ouvre un nouveau paradigme du nucléaire qui est lié aux petits réacteurs. C'est pas nouveau. En fait, le nucléaire, il est né des petits réacteurs, hein, en fait, même. Donc, au moins pour les REP. Les REP sont nés de petits réacteurs de propulsion navale. Et donc, il y a un mouvement important qui s'est créé, en partie aux États-Unis, sur beaucoup de réacteurs SMR. Et aujourd'hui, l'actualité nous rattrape. Hein, on est dans une semaine un peu particulière. On entend que Google a signé un accord avec Kairos, qui est un projet de réacteur avec du combustible TRISO et sel fondu. Et Amazon a signé un accord avec X Energy. Sachant que déjà, Microsoft, à travers TerraPower, et Bill Gates, étaient déjà dans la réflexion et dans le développement du nucléaire, en particulier sur de la technologie sodium. Et Sam Altman, le patron de ChatGPT, lui, il a déjà acheté un projet de réacteur nucléaire. Il a racheté Oklo. Ils l'ont appelé Oklo, leur réacteur, et pour 700 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup d'argent aux États-Unis, mais ils ont quand même. Donc il y a ce mouvement-là. Et donc, la puissance publique française, à travers France 2030, le SGPI, et la Banque publique d'investissement, BPI, a lancé un appel à projets réacteurs innovants. En sont sortis 11 projets qui ont été labellisés et donc qui sont lauréats et donc qui peuvent avoir une subvention de l'État. Pour nous, elle est jusqu'à 10 millions d'euros et donc c'est le maximum de la phase 1. Et dans ces 11 spin-offs, dans ces 11 sociétés, pardon, il y a 4 spin-offs du CEA qui sont Stellaria, Blue Capsule, Exana, Autrera. Donc sur ces 4-là, on a en fait une technologie à sel fondu qui est Stellaria, une technologie réacteur haute température et sodium, c'est Blue Capsule, et 2 réacteurs au sodium, Exana et Autrera. Donc voilà, et nous on va vous présenter un peu Autrera. Autrera, c'est à la fois le REX de toute notre expérience sur le réacteur au sodium et la volonté à travers Astrid, de ce qu'on a fait sur Astrid, d'essayer de l'impliquer, de l'implémenter, je dirais, dans des réacteurs de petite taille. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire des réacteurs neutrons rapides français. Donc Rémi, il a démarré avec le début, enfin sur la fin du début, mais enfin par là. Moi, j'ai démarré plutôt sur Super Phoenix. Hein. Après, bien sûr, Phoenix a continué à fonctionner, mais moi, mon premier travail, ça a été de travailler avec le service du cœur de Super Phoenix pour le redémarrage de 176 à 320 GEP, projet EFR, projet Astrid, et donc Autrera qui s'inscrit dans cette filiation-là, mais qui appelle à se re-questionner en fait sur le cahier des charges de ces réacteurs-là. Et ça, c'est clé. Rémi, si tu peux juste, hop, voilà, du coup, on on va travailler ensemble. En fait, le questionnement, et moi qui étais physicien des réacteurs, on était toujours à dire, sur ces réacteurs-là, on a des tout petits cœurs, on a un cœur qui est tout petit, on dit Phoenix, la partie physique du réacteur Phoenix, c'est une machine à laver à peu près, une machine à laver, et ça fait 563 mégawatts thermiques, donc c'est extrêmement, il y a une densité de puissance très élevée, mais après, tous les restes des composants sont beaucoup plus gros, et donc si on replonge un peu dans le cahier des charges, c'est ce que j'ai inscrit, c'est que le contexte, c'est les années, fin des années 50-60, et ces réacteurs-là, en fait, on n'avait pas de plutonium, il fallait en produire. Et donc, ça a extrêmement, impacté la conception. Parce que, à partir du moment où vous voulez avoir, vous n'avez pas de plutonium, en fait, on a visé des temps de doublement très courts. Moi, je replongeais dans le Russ, pour ceux qui font de la physique des réacteurs, dans les bouquins de Paul Russ, et surtout des bouquins qui ont été édités dans les années 80. Et la partie physique des réacteurs trop rapides, quasiment à la troisième page, vous trouvez le temps de doublement, la notion de temps de doublement. C'est-à-dire en combien de temps j'arrive à reproduire ma matière pour faire un deuxième réacteur et pouvoir ainsi répandre des réacteurs neutrons rapides. Et donc, c'était le mot-clé de ces réacteurs-là. Et donc, si vous voulez un temps de doublement court, il faut minimiser la quantité de matière à puissance donnée et mettre des couvertures surgénératrices en uranium appauvri pour produire du plutonium dans ces couvertures. Et donc, vous arrivez en fait au troisième point, c'est que vous avez des puissances volumiques qui sont élevées. En effet, donc trois fois et demi celle d'un réacteur repressurisé. Mais du coup, pour encaisser ces puissances volumiques élevées, vous allez plutôt choisir un système intégré, piscine, enfin voilà. Donc c'est le concept pas de Rhapsody d'ailleurs, de Phoenix, Super Phoenix, EFR et Astrid, où en fait, pour encaisser ces puissances volumiques, on avait des réacteurs intégrés. Si vous avez des réacteurs intégrés, vous avez des composants qui sont longs, les pompes, les échangeurs, enfin voilà. Et donc après, quand vous devez les changer, vous avez des tailles de bâtiments qui sont très, très grandes, et donc on arrive à des bâtiments assez cathédrales. Pour ceux qui ont visité, alors Phoenix c'est un peu différent, mais Super Phoenix c'est vraiment très impressionnant. C'est quand même des bâtiments très très grands, très très hauts, très élancés, enfin, et donc qui posent pas mal de problèmes sur le coût, la compétitivité, etc. Et donc, à l'issue d'Astrid, en fait, on s'est reposé ces questions-là. Et donc, en fait, on avait ancré dans la... Enfin, tout le monde dit, un RNR, ça coûte plus cher qu'un REP, 30 à 50%, mais ça offre un autre service, donc on pourrait tolérer que ça coûte plus cher. Bon, en fait, non. En fait, le coût de l'énergie, il faut qu'il soit bas. Et puis, si ça offre des services en plus, peut-être qu'il pourrait être rémunéré, mais enfin, le coût de l'énergie, c'est le coût de l'énergie. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'avec un RNR, on peut un peu modifier ce paradigme dans une vision de petits réacteurs? Et donc c'est la suite. Et donc nous on s'est voilà. Donc la première question c'est on n'avait pas de plutonium, mais est-ce qu'aujourd'hui on en a? La réponse c'est plutôt oui quand même. On en a dans les combustibilisés d'EDF, on en a à la Hague, dans les piscines d'EDF, et il y en a beaucoup. Et en plus aujourd'hui sur la question du donc on fait des combustibles MOX, hein, donc ça c'est très intéressant. Le combustible MOX ça permet déjà dans une piscine de réduire par 6 ou 7 le nombre d'assemblages, puisque un assemblage MOX c'est à peu près le plutonium de 6 à 7 assemblages UOX, mais une fois que vous allez irradier cet assemblage MOX, aujourd'hui on a des pistes pour éventuellement repasser un tour dans REP, etc. Bon, la physique étant têtue, on sait quand même qu'un spectre à neutrons rapide c'est quand même beaucoup mieux pour faire tourner du plutonium et pas monter sur des isotopes pairs, etc., etc. Donc on a du plutonium. Est-ce qu'un SMR peut être compétitif, aussi compétitif qu'un SMR Gen 3? Quand on regarde un SMR, alors c'est du sodium, mais c'est pas pressurisé, c'est des coques minces, en fait, etc., etc. Il y aurait pas a priori de raison, au moins au niveau des cahiers des charges, que ce soit plus cher. Ça se trouve être un peu moins cher. Alors après, en effet, le sodium réagit à l'air et à l'eau, et donc en effet, du coup, on prend pas mal de solutions de conception pour mitiguer ce genre de risque, et donc ça nous amène à des surcoûts. Et est-ce qu'on peut améliorer la sûreté d'un réacteur en général en le faisant petit? Oui, ça c'est évident. Ça, plus on fait petit en général, plus on peut faire sûr, on a une thermosense qui est plus faible, on a des puissances totales du réacteur qui sont plus faibles, donc on peut. Voilà, après ça peut avoir un coût, mais ça c'est pas lié, c'est simplement la réduction de taille, c'est quand même assez... Ça peut permettre de détendre des contraintes. Et alors, après, il y a un dernier point, c'est que le plutonium, on en a, mais c'est quand même très utile. Et EDF, dans les années futures, enfin, après son parc REP, EPR, sa vision, c'est des SFR de grosse puissance qui viendraient prendre la suite. Et donc, Grosso modo, sur le stock de PU, pas mal de nouveaux acteurs du nucléaire dans les startups disant, moi je vais brûler le PU. Je suis pas sûr que EDF soit très très ouvert à l'idée qu'on consomme sa matière dont il va avoir besoin dans 80 ans. Alors, on peut jouer avec un peu, mais peut-être pas totalement. Donc, nous, on s'est donné aussi comme cahier des charges d'être ce qu'on appelle isogénérateur, voire légèrement surgénérateur, mais de pas être brûleur de PU. Et ça, c'est une question assez fondamentale parce que quand vous avez en physique des réacteurs, plus vous faites un réacteur qui est petit, surtout un neutron rapide, plus les neutrons ont tendance à s'échapper parce qu'il y a des taux de fuite importants. Et donc vous augmentez les teneurs, plus vous augmentez la teneur en plutonium, plus vous réduisez l'isogénération interne du réacteur et donc vous montez en teneur 25-30%. Et donc votre réacteur, il est par définition consommateur de plutonium. Nous, dans Outre-Héran, on s'est mis comme cahier des charges de viser ou une très faible consommation, une isogénération, une faible surgénération, préserver la ressource plutonium, parce que c'est une ressource qu'on a sur notre sol, et il faut bien avoir en tête qu'avec ces réacteurs à neutrons rapides, on n'a plus besoin de mine, hein. La ressource est sur le sol, c'est-à-dire le plutonium, on en a, de l'uranium appauvri, on en a beaucoup même, beaucoup, beaucoup. Et donc avec ça, et ça c'est pas nouveau, enfin, ça a été écrit il y a déjà des 30 ou 40 ans, vous avez une quantité de ressources sur le sol, de l'ordre du millénaire, en fait, hein. Donc, on peut même doubler ou tripler la puissance, on resterait dans cet ordre-là. Puissance électrique française nucléaire. Donc, ça, c'est très intéressant, c'est très important, et surtout, ça permet d'être beaucoup moins volatile sur des cours de matière, qui aujourd'hui, en effet, voilà, il y a deux éléments importants qu'il faut que vous ayez en tête. C'est-à-dire, on dit qu'en général, le coût du cycle, c'est peu élevé dans un réacteur, mais dans un gros réacteur, c'est vrai, parce qu'il coûte très cher, donc, en effet, le coût du combustible est faible à comparaison de l'investissement du réacteur. Par contre, si vous faites un petit réacteur, le coût du cycle va monter. Ça, c'est... Donc, quand on parle de petit SMR de génération 3, on ne peut pas dire que le cours de l'uranium, on en est indépendant. Je pense qu'il faudra que les économistes, mais enfin, ils le savent, hein, repositionnent la chose. Donc voilà, donc nous, c'était ces idées-là, assez simples au départ, qu'on a déclinées en conception. Alors, hop, peut-être si tu veux, le dernier, après je te passerai le micro, je passe, voilà. Donc, en fait, nous, on s'appuyait sur trois choses. Le Rex d'Astrid, puisqu'on venait d'Astrid, alors, moi, j'étais donc chef de projet, et Rémi, il était en face de moi chez Framatome, et donc, surtout sur le petit réacteur, on a essayé de réduire le coût, on a fait ce qu'on appelle, en bon français, de la conception à coût objectif, ou design to cost, mais de vraiment réduire les coûts, et on s'est heurté parce que l'architecture, et pour les questions que je vous ai ramenées préalablement, on s'est trouvé coincé dans la conception à ne pas pouvoir réduire la taille et le coût des réacteurs. Donc nous, on a repris le cahier des charges initial, on a capitalisé sur les forces et faiblesses du design, parce qu'il y a des choses qui ont été très bien faites, mais ces réacteurs intégrés, quand on les compare maintenant ou qu'on les soumet aux codes et normes actuels, aux demandes de l'autorité de sûreté nucléaire, etc., etc., ça peut donner quelques points de conception sur lesquels il faut travailler. Alors, on a des très bons ingénieurs, très bons mécaniciens, thermodynamiciens, on y arrivera, mais sur Astrid, on s'est quand même un peu gratté la tête et Rémi pourra en témoigner. En même temps, le CEA a développé des briques technologiques extrêmement intéressantes dans le cadre du programme Astrid, qu'on a assez mal valorisé dans le cadre du programme, en fait, parce qu'on avait la pression d'EDF en particulier, de Framatome, enfin, qui souhaitait plutôt reproduire ce qu'ils savaient faire. Et donc le CEA a quand même joué un rôle extrêmement intéressant en développant des briques technologiques qu'on a mal positionnées dans l'architecture du réacteur, mais qui étaient quand même très intéressantes, qu'il a continué à développer. Et nous, ces briques technologiques, on les a réintégrées dans Outre-Héran. On va en parler, c'est l'échangeur sodium-gaz et c'est les pompes électromagnétiques en particulier. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est des produits qui ont été montés en maturité technologique par le CEA. Et nous, comme on est spin-off du CEA, ben, on peut avoir des accords de licence non exclusifs là-dessus, et on y travaille. Le market design, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez vendre un réacteur, alors quand on fait un réacteur filière, bon, ben, c'est pas très compliqué. C'est un gros réacteur avec un coût réduire les temps de chantier, grosso modo, si on peut y arriver. Et big is beautiful, plus c'est gros, moins c'est cher sur le mégawatt. Bon. Il y a peut-être un optimum aussi à trouver là-dessus. On voit bien que EPR2, ça va être quand même, c'est un design to cost d'EPR, en fait. On a dit EPR, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut enlever maintenant pour être plus compétitif et tenir nos délais? Donc, nous, on a réfléchi à différents éléments. Bon, le besoin d'énergie décarboné, limiter le CAPEX, parce qu'en fait, si vous voulez vendre vos réacteurs, il faut que les gens puissent vous l'acheter. C'est tout bête, mais voilà. Donc, il faut avoir si vous dépassez le milliard, pour faire simple, si vous dépassez le milliard d'euros en prix de vente, ça devient compliqué à vendre. Voilà. En dessous, ça se discute. Et après, quels étaient, comment on devait faire pour essayer de se rapprocher des zones périurbaines. Donc, se rapprocher des zones périurbaines, ça veut dire qu'en fait, pour faire très simple, ça peut se traduire par on ne veut plus de zones d'exclusion prioritaire, en fait. C'est-à-dire, même en cas d'accident grave, si vous avez une fusion du cœur, ben, il faut que ça soit, ça reste confiné dans le bâtiment réacteur et que le terme source qui s'échappe soit, évite le déplacement de population, et on a essayé d'y répondre. Et puis, design to cost, j'en ai parlé, mais c'était vraiment réduire le plus possible, par conception, tout ce qui était des complications liées au réacteur à neutrons rapides, à savoir, pour ceux qui les connaissent, c'est quand même des systèmes qui sont assez complexes, avec des bouchons tournants, avec des barillets qui ont plus ou moins bien fonctionné sur Super Phoenix, qui ont bien fonctionné sur Phoenix, ce qu'on appelle le bouchon couvercle cœur, les thermocouples, enfin, c'est extrêmement complexe. Donc nous, on s'est reposé ces questions-là et on a essayé de tuer par conception l'ensemble des initiateurs. Pour faire très simple, je vais passer la parole à Rémi qui va vous parler de la technologie d'Autrera. On a tué par conception. Donc le sodium réagit à l'eau et à l'air. Ben, nous, on a enlevé l'eau et on a enlevé l'air. Alors, on n'est pas des magiciens. On n'a plus de GV. On n'a plus de GV, mais on a des échangeurs à plaque sodium-gaz développés par le CEA. Et on a plus et donc du coup, on a un cycle de Brayton, on n'a plus un cycle de Rankine. Donc il y a un rendement un peu plus faible, mais comme on n'a plus de circuit intermédiaire, ben on réduit encore le système et on augmente l'efficacité et on a encapsulé le réacteur dans une enceinte confinée inertée à l'azote. Donc toutes les grandes quantités de sodium sont enveloppées par une enceinte inertée à l'azote, donc on n'a plus de réaction sodiomère. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'avec tout ça, ça vous permet d'avoir une approche qui est extrêmement différente sur la conception. Je vais juste terminer parce que c'est un peu ma spécialité, après je passe la parole à Rémi. Sur le cœur, c'est pareil, on a repris les choses, et l'idée c'était d'avoir un cœur qui dure 10 ans sans rechargement. Donc on est arrivé à un design de cœur qui dure 10 ans sans rechargement, ce qu'on appelle un cœur batch, et ça c'est aussi extrêmement intéressant, parce que ça nous permet d'avoir à la fois des cœurs qui durent longtemps, comme on a réduit la puissance volumique du cœur, On a enlevé le fameux tube hexagonal qui a mené à pas mal d'accidents, initiateurs d'accidents graves, bouchage total instantané, etc. etc. Même sur Astrid, on était un peu limite en termes de détection de ce type d'accident. Là, on se retrouve, en fait, on s'est rapproché en fait d'une hydraulique de REP, pour faire simple. L'idée, c'est ça, parce que ça marche bien. Et donc, si on peut le décrire, mais je veux pas spolier, comme on dit Rémi, Autrera, c'est un RNR au sodium avec une hydraulique de REP. Voilà. Allez, je passe le micro à Rémi.
Il y a peut-être une autre solution, c'est de garder.
Ah,
garder le micro.
Je coupe ça.
Voilà, vous m'entendez.
Ok. Ça me va pas bien, ici. Ça marche. Ouais. Je commence là.
Allez.
Tu parles du cycle.
Oui, du cycle, oui. En deux mots, je vais juste présenter mon parcours. C'est parce que j'ai eu une chance extraordinaire, finalement. Assister aux essais de démarrage de Phoenix, la conception de Super Phoenix, la mise en service de Super Phoenix en salle de commande en 3.8 jusqu'à la pleine puissance. Et puis après, l'occasion de participer, enfin, d'avoir en charge pour la partie Framatome toute la rénovation de la centrale Phoenix, diagnostic, jusqu'aux essais de remise en service. Et puis d'avoir participé un peu plus tard à la réalisation des essais de fin de vie sur Phoenix, qui étaient des essais vraiment que rêve tout ingénieur. On nous a donné les clés du camion et on a fait les essais qu'on rêvait, hein, presque tous, pas tous quand même. Et voilà. Et puis j'ai eu une aventure au GRGH au début, et puis j'y suis retourné ces 3,5 dernières années pour être détaché au CEA pour les études d'ingénierie des dispositifs expérimentaux du RGH. Et puis un peu de BN600, BN800, C'est en Russie, ça. Et puis, donc j'avais décidé de prendre ma retraite, puis finalement, j'ai pas pu la prendre parce que, enfin, plutôt je l'ai prise, mais mon successeur est pas arrivé, donc je suis resté 6 mois de plus. Puis après, donc, je suis parti, et puis Frédéric, on a travaillé ensemble sur Astrid, parce que j'étais le chef de projet Astrid sur la partie Framatope aussi. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble sous le gros réacteur. Et puis après, la dernière année, on a exploré le petit réacteur. Et c'est un peu ça, l'origine d'autres ERA, finalement. Et puis, il m'a demandé de venir, et puis j'ai craqué, quoi. Voilà, bon. Donc je regrette pas, c'est intéressant, parce que c'est un autre concept, donc ce que je vais vous... je vais vous présenter. Voilà, donc le réacteur, la base du combustible, c'est du MOX. Hein. Et on vise à concevoir les assemblages combustibles pour qu'ils s'intègrent dans le flux LAG de dissolution, comme les assemblages REP. Donc par exemple, le tube hexagonal, on n'aime pas trop, le filet spaceur non plus. Donc ça, on l'a enlevé dans notre concept. En mettant combustible ouvert, cœur ouvert, donc les aiguilles sont dans le sodium, sans tube hexagonal, et puis le filet spaceur enlevé, on met des grilles. Donc on ressemble, ce réacteur Otera, c'est presque un réacteur REP à sodium. Voilà. Les teneurs, donc. Frédéric en a parlé, les teneurs sont plutôt basses, ce qui nous permet d'avoir de l'isogénération. Et dans le cycle de l'usine également, le fait d'avoir des teneurs basses, ça facilite au niveau de la dissolution, en particulier dans l'usine. Voilà. Je regarde s'il y a des choses intéressantes autres. Non, mais c'est bon. J'ai à peu près tout dit. Sur le design du réacteur, donc le cahier des charges qu'on s'est fixé, la réflexion a duré un peu de temps pour bien préciser le cahier des charges, mais c'est réacteur modulaire et avec empreinte au sol le minimum possible, l'idée étant de pouvoir s'installer près de sites industriels et de créer des sources d'énergie près des sites industriels. Donc il ne faut pas de très grandes surfaces. Et on va le voir, on y est un peu arrivé quand même, avec la problématique sûreté, si on est proche, il ne faut pas qu'on ait à évacuer les populations. Donc on a 4 barrières de confinement, par exemple, qui sont des vraies barrières. Voilà. Et ça, c'est intéressant dans le concept. Donc ce que vous avez ici, c'est un bloc chaudière, avec en partie inférieure le cœur, et en partie supérieure, vous avez 6 boucles d'échange. Donc c'est 6 boucles en parallèle et une pompe électromagnétique, un échangeur sodium-gaz de 50 MW, voilà, puis un réseau d'expansion, et voilà, c'est tout. Et puis après, les tuyaux trigaz qui sortent de chaque échangeur et pour aller vers la turbine. C'est une turbine à gaz, cycle de Brayton. Voilà. Alors, un dessin un peu de comparatif des cuves. La cuve Otera, il y a le circuit primaire, c'est la cuve qui est à l'intérieur du bloc chaudière, dans lequel il y a le sodium primaire, et puis autour il y a les boucles d'échange de chaleur. Voilà, donc les tailles, effectivement, quand on se compare au New Astrid, qui était le petit Astrid de 150 MW électrique, le nôtre c'est 110, mais on est beaucoup plus petit en taille dans ce type de réacteur à boucle. Au niveau du réacteur New Astrid, on a beaucoup réfléchi à diminuer les tailles, diminuer les coûts, et j'ai l'habitude de dire on est arrivé à l'os. On ne sait plus où gagner. Quand on a gagné 1%, on est très content. Voilà. Et donc l'idée... Mais déjà un peu, c'est dit, il faut changer de concept parce que sinon, on va pas pouvoir, pour un petit réacteur, on va pas pouvoir baisser les coûts. Et c'est donc l'idée au terrain. Alors, l'idée est venue, c'est Frédéric, là. Il a vu aux États-Unis là.
Oui, petite comparaison par rapport à ce qu'on appelle le New Space. Vous entendez parler de SpaceX et vous avez vu peut-être dernièrement le réatterrissage du premier étage de Starship, Et le premier étage s'appelle Super Heavy parce qu'il est en gros, il fait 70 mètres de haut, etc. Mais enfin, moi j'avais visité Cap Canaveral, là, c'est intéressant, et il y a une maquette échelle 1 de Saturne 5. Saturne 5, c'est la fusée qui a envoyé les cosmonautes sur la Lune. Et Starship, c'est le même cahier des charges. C'est pareil, c'est le même cahier des charges, sauf que la conception est différente. C'est ça qui est intéressant. Et quand on voit les boosters de Saturne 5, il y en a 5. Les boosters, ils font 20 mètres à peu près. Ce que vous voyez là, les espèces de cônes là, c'est 20 mètres. Starship, il y en a 33, ils font 2 mètres 50. Et d'ailleurs même, quand vous regardez la communication de SpaceX autour de leur Starship, ils vous montrent bien qu'ils les fabriquent en usine. Enfin, ils vous montrent qu'il y a des caisses en bois, ça arrive. Enfin, il y a du flux industriel autour de ça. C'est une vision industrielle de l'espace. Ils ont vraiment une approche extrêmement marquée. Ben, nous, on a fait pareil sur Retrait, c'est-à-dire qu'on a dit plutôt que d'avoir par exemple, 4 grosses boucles ou 2 grosses boucles même. Sur Astrid, le petit Astrid, on avait 2 grosses boucles. Mais en fait, le réacteur faisait 400 mégawatts thermiques. Donc, c'était deux boucles de 200 mégawatts quand même. Donc, c'est pas des petits échangeurs, c'est pas des petites pompes, etc. Nous, on est passé à 6 boucles à 50 mégawatts, ou 8 boucles, si on voulait faire un 400, 8 boucles à 50 mégawatts. Donc, c'est plus la même chose de concevoir un composant, un gros composant. C'est non industrialisable quasiment, à part peut-être aussi, on va dire les pommes des reps et encore. Mais malgré tout, c'est très gros, c'est très compliqué. Nous, on est parti vraiment sur ces géométries-là. Et sur le slide d'après, je vais passer la parole à Rémi. Vous allez voir que justement notre booster, là, l'équivalent, c'est cet échangeur. Rémi en a parlé, mais je lui laisse vous raconter.
Oui. Donc, effectivement, pour faire le parallèle avec les petits boosters, là, ou sur les petits boosters, il y a du rétrofit, c'est-à-dire que les boosters sont retournés en usine, sont modernisés, puis reviennent après sur le réacteur. Nous, on a le même principe sur le réacteur, notre petite boucle, là, elles sont démontables, tout est démontable à l'intérieur, on envoie ça dans une bâche chaude, on fait ce qu'il faut, et ça revient qualifié. Donc l'esprit, c'est un peu le même. Donc la boucle est présentée ici avec la pompe en bas, l'échangeur en partie centrale et puis le réservoir de sodium. Et donc sur la partie pompe, c'est une pompe électromagnétique, donc on les connaît bien, les pompes électromagnétiques. La dernière qui avait été, dans mon ancien temps, c'était 600 mégawatts, 600 mécubères. Voilà. Et ici, donc le SA a développé une pompe de 1200 mégawatts. Qui est pile poil notre besoin sur Otrera. Donc la pompe elle tourne, elle est sur Pemdin à Cadarache. Donc on va reprendre ce design et on va l'industrialiser, l'améliorer, l'optimiser et le mettre aux cotes et aux performances d'Otrera. Donc on discute actuellement avec le CEA. L'échangeur, lui, c'est un peu plus innovant. C'est un échangeur compact à plaque. C'est sur la base de, c'est pas du soudage, c'est de la compression, du soudage par diffusion, compression isostatique à chaud. Donc c'est 1000 bars, 1000 degrés à peu près. Et donc on grave des plaques, on soude des plaques, et on grave des plaques sodium, on grave des plaques gaz, et on les soude et ça nous fait beaucoup de canaux. Donc c'est un bloc de métal percé de plein de trous. Voilà, c'est l'échangeur. Voilà. Donc c'est innovant. Après la codification de ce genre d'échangeur, c'est sûr que c'est pas, il y a pas un REX très élevé, mais on a eu déjà au moins il y a une dizaine d'années de développement au CEA, et donc on va continuer. On a déjà des modules qui ont tourné, ça marche, et donc on va passer à des puissances plus élevées. Mais comme c'est modulaire, là on voit aussi l'effet modulaire. L'échangeur élémentaire, c'est deux plaques. Et ben là, vous mettez le nombre de plaques qui puis vous avez un échangeur de 10, 20, 50 mégawatts. Donc tout est modulaire dans ce réacteur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut faire varier la puissance. Et puis surtout en termes de fabrication, toutes les composants sont identiques. Donc on en fabrique un, on en qualifie un. C'est petit, c'est pas trop cher. Et après, on fait de la série en usine. Donc après, il faut maîtriser la fabrication. Donc ça, on va s'en occuper. Enfin, on commence déjà à s'en occuper. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, je disais, oui, c'est équivalent à un REP, effectivement. Notre réacteur, le sodium arrive par des branches, donc c'est deux fois six branches. Ça descend au fond de la cuve. Il y a un semi, un retournement, et ça monte dans les crayons. Et les crayons, c'est des crayons ouverts, donc c'est vraiment identique. Voilà. Et en partie supérieure, on a aussi un couvercle. Qui est pas le, par contre, c'est pas le couvercle du REP, parce que là, on est à 550 degrés, donc c'est un couvercle un peu particulier. Mais on a trouvé la solution. Et donc, ça s'ouvre et ça se ferme, et voilà. Et on décharge, donc, après, on fait comme les REP, on décharge le combustible par le dessus. Et alors, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais je pense que ça doit être peut-être sur la slide suivante. Ah oui, d'accord. Oui, une particularité, alors là, ça va vous étonner, vous allez dire, ils s'en foutent. C'est pas intuitif au départ. Donc on fonctionne avec deux cuves alternativement. Une première cuve qui fonctionne 10 ans, donc les cycles c'est 10 ans. Déchargement batch complet. Et donc l'assemblage il arrive, on le met au fond, il reste 10 ans et on le ressort. Et on le touche plus. 10 ans, ensuite on le laisse refroidir dans sa cuve, 5 ans à peu près. Ensuite les puissances sont faibles, donc on peut le décharger en gaz. C'est les sous haute gaz, donc des choses qu'on a connues, qu'on a développées déjà dans le passé. Donc tout ça, c'est sur des règles connues, on n'est pas inquiet. Et puis, pendant que la cuve est à l'arrêt, l'autre à côté, on l'a démarré. Donc finalement, on a un réacteur qui produit tout le temps. Alors tout le temps, bon, il faudra bien entretenir la turbine quand même, et puis il y aura bien quelques petits incidents. Donc, voilà. Donc la disponibilité, on vise bien des disponibilités de 95-97%. Et donc ce qu'on devine, c'est que quand une cuve est à l'arrêt en refroidissement, on l'a déchargée. Ensuite, on fait donc le déchargement, il est en temps masqué. Après, on fait l'inspection en service en temps masqué. On fait la maintenance, le rétrofit en temps masqué, pendant que l'autre tourne. Et après, ben, on inverse. Hein. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'autour du bloc de béton, qui représente l'infrastructure, parce que c'est enterré, tout ça est enterré, eh bien autour, il n'y a rien. Pas de bâtiment combustible, pas de bâtiment de lavage, on ne met rien autour. Et donc l'empreinte au sol, c'est un terrain de football, la partie du réacteur. Donc c'est petit. Et donc on a une empreinte au sol vraiment faible. Et quand on compare nos volumes de béton rapportés au mégawatt, on se compare aux meilleurs réacteurs de puissance. On est en train de consolider ça, mais on y est. Donc, tout ça est très, très intéressant. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai bondi sur son concept. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, oulala, je n'avais jamais imaginé tout ça. Et donc, le gaz qui sort va vers une turbine à gaz. Donc, c'est un cycle de Brayton, cycle fermé, avec une ligne d'arbre. La turbine, deux compresseurs, un alternateur, en cycle fermé, avec quelques échangeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le cycle gaz, il a un rendement plus bas. En production d'électricité, on est plutôt à 39,
parce qu'en fait, on...
Le gaz,
en fait,
non.
Pour deux choses. En fait, on sort plus chaud. C'est-à-dire, ouais. Un réacteur comme ça, il aurait 42% à peu près de rendement brut. Si on avait un cycle de Rankine, on perd... 2,5 points pour nous. On ne perd que 2,5 points. Alors pourquoi ? Parce que un cycle gaz, plus on sort chaud, meilleur est son rendement, plus on se rapproche du Rankine. Mais en même temps, comme on a enlevé le circuit intermédiaire, qui est aussi un poste de coût important, on n'a plus de circuit intermédiaire, on enlève le pincement d'un échangeur. Donc en fait, on peut attaquer l'échangeur turbine plutôt autour de 540-550 degrés, là où d'habitude on l'attaque plutôt à 510-530 pour l'échangeur sur le gelé, enfin pas sur le gelé, donc sur les températures entrées sur le sodium du gelé. Donc ça nous permet de conserver un rendement élevé.
Et l'autre intérêt, c'est que la chaleur fatale qui dans un cycle de Rankine est à 45 degrés, on envoie ça dans la mer ou dans le Rhône, voilà. C'est difficilement utilisable, sauf pour chauffer les crocodiles éventuellement. Voilà. Ici, on sort de la chaleur fatale entre 100 et 180 degrés. Donc là, on est dans des températures qui intéressent les industriels et on peut distribuer la chaleur sur quelques kilomètres pour intéresser un bassin industriel. Donc ça, c'est la vocation de d'autres RA, c'est-à-dire que le rendement, il est de 100%, on perd. On vend tout, on distribue tout. Voilà. Après, il faut trouver des industriels qui achètent, mais l'idée, c'est de dire si on a des réacteurs et une source d'énergie nucléaire pérenne, coût maîtrisé, sur de très très longues durées, avec des engagements de contrats à long terme, on peut attirer des industriels. Alors les industriels, ils n'ont pas une vue sur 80 ans, mais ils ont une vue sur une quarantaine d'années, on va dire, et encore. Mais l'idée, après, c'est que les industriels tournent et que d'autres industries arrivent. S'il y a de l'énergie, en général, ça capte. Hein. On voit Vallée de la Maurienne, enfin toute l'histoire française, c'est là où il y a de l'énergie, il y a des usines autour. Donc c'est ça l'idée. Hein. Voilà, le système de conversion d'énergie Brighton, j'en ai parlé.
Peut-être juste un mot sur justement les finalités, enfin, ce qu'a dit Rémi, c'est important. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est ramener, c'est l'idée de boucle courte énergétique. Alors c'est là aussi, c'est assez nouveau parce que en France en particulier, on a un très bon réseau, etc., très interconnecté. Mais enfin, on voit que l'entrée des ENR dans la vision énergétique française et européenne oblige à ce que les réseaux deviennent de plus en plus robustes, s'interconnectent, etc. Vous avez des premières études de RTE qui sont sorties et qui donnent environ un investissement sur le réseau simplement pour encaisser ces variations sur 15 ans à la hauteur de 100 milliards. Et ça, c'est que pour la haute tension. On entend dire qu'a priori, il y aurait à peu près la même chose sur la moyenne basse tension. Donc c'est des investissements importants. Et en fait, si vous sollicitez RTE, RTE répond avec ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire, je vais caricaturer, pardon, hein, mais avec du cuivre, en fait, donc tirer des lignes, des interconnecteurs, etc. Or, si vous commencez à distribuer des sources d'énergie, pas loin de sources non pilotables, en fait, c'est-à-dire, donc du coup, par exemple un parc éolien ou du photovoltaïque, etc., ben, quand lui ne produit pas, la source locale nucléaire, par exemple concentrée, elle va pouvoir rentrer en jeu, et surtout stabiliser localement le réseau. Et ça, c'est un vrai enjeu de réduction de coûts d'investissement du réseau. C'est plus une vision, je dirais, tout interconnectée, c'est une vision locale et dynamique. Et ça, quand on commence à discuter avec TE, ça intéresse au premier chef, je dirais, la vision. Les industriels, la guerre en Ukraine est passée par là, une source d'énergie pas trop loin, quand même, ça refait son chemin. Donc c'est ce que disait Rémi, on s'est toujours, depuis les révolutions industrielles, on s'est éloigné de nos sources d'énergie. Alors on se dit que les industriels, sur des gros sites industriels en particulier, avoir localement leur source d'énergie, avec des contrats long terme, etc., etc., l'avoir sous la main, c'est quand même intéressant. Et donc, bien sûr, la chaleur, si vous voulez distribuer de la chaleur, là vous pouvez pas, au-delà de 30 km, ça commence à être compliqué. Donc la chaleur, elle se distribue obligatoirement localement. Et pour la question française des industriels, il y a un point intéressant, c'est que les industriels français, bon, leur électricité, elle est déjà décarbonée, grâce au parc nucléaire, hein, donc voilà. Mais par contre, leur chaleur l'est pas. Et donc ça, il y a un vrai enjeu, pas assez français, je dirais, d'aller décarboner la chaleur. Quand on parle au niveau européen, c'est différent, parce qu'il y a pas mal de pays où ils ont, la Pologne en particulier, mais enfin, on discute avec d'autres. Et après, si vous partez sur d'autres pays ou qui n'ont pas de réseau, ben ça, par contre, un petit réacteur, ça les intéresse, parce que on peut pas aller leur mettre un EPR en plein milieu, ils n'ont pas le réseau pour encaisser tout ça. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on travaille sur tous ces produits-là. Et alors, après, il faut qu'on valorise notre CAPEX, c'est-à-dire si notre réacteur, il est là que quand l'éolien s'arrête, c'est pas très rentable tout ça. Donc, on a des approches, par exemple, de production d'hydrogène, c'est-à-dire quand il y a trop de courant, nous on produit notre hydrogène, et la chaleur fatale qui a été indiquée par Rémi, donc c'est vraiment une chaleur fatale, c'est-à-dire c'est la sous-production, c'est on produit de l'électricité et on a un sous-produit qui est une chaleur entre 100 et 150 degrés, voire 180. Et cette chaleur-là, on peut s'en servir, elle est pas chère, pour capter du CO2. Et on a des dispositifs de captation du CO2, en particulier le Solid Direct Air Capture, qui fonctionne très bien avec ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez du H d'un côté, du C de l'autre. Ben, c'est ce qu'on appelle après les fameux e-fuel, c'est les e-carburants. Vous faites la chaîne du carbone, hein, du méthane au kérosène. Et ça, ça intéresse en particulier pas mal d'acteurs. Le transport aérien, alors ça encore faut-il là aussi arriver à un kilo de l'hydrogène suffisamment en dessous de 3 euros, hein, parce que autrement c'est plus compétitif. Et le transport maritime, au premier chef aussi. Et là, nous, on travaille de façon resserrée avec CMA-CGM, qui est qui est le transporteur français, le troisième mondial, parce qu'eux, ils ont un enjeu de décarbonation de leur grosse ligne. Et donc, eux, ce qui les intéresserait, c'est de l'ammoniac ou du méthanol. Mais ces enjeux-là, par exemple, voilà. Donc, c'est l'idée, c'est d'avoir quelques SMR en bout de ligne qui leur produisent leur énergie, qui leur produisent leur carburant, et qui voilà, les bateaux viennent refiouler au bout d'un cycle pour venir recharger. Donc, ça, c'est des choses qui commencent à se regarder de façon très proche. Voilà. Et Outre-Rhin, ça correspond bien à ça, quoi. Voilà. Voilà, après, en effet, bon, voilà. Du coup, après, si nos clients deviennent notre source froide, ben, on n'a plus, dans l'absolu, on n'a plus besoin d'eau, du tout. Alors après, de toute façon, on peut avoir toujours des échangeurs RR, mais c'est un peu gros. Mais enfin, l'idée, c'est que, en valorisant de la chaleur fatale, ben, vous diminuez les consommations. Donc ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, c'est un enjeu. Voilà.
Donc voilà, on coche beaucoup de cases sur notre réacteur. La sûreté, voilà. Donc il y a des enjeux, donc on a travaillé aussi des enjeux de sûreté et profiter du fait qu'on, ben c'est un réacteur petit, mais plus que ça, c'est qu'en en changeant l'architecture, on s'est aperçu, alors c'était pas évident au départ de s'en rendre compte, mais on a tué des initiateurs d'accidents qu'on rencontre dans les réacteurs à neutrons rapides. Si ça vous parle, c'est la remontée intempestive de barre, par exemple, celle-ci elle disparaît. C'est le bouchage d'assemblage, ça disparaît. Et puis, on est en train de se dire, le passage de bulle risque de criticité. On s'est dit, est-ce que vraiment on a quelque chose? Donc on le prendra en compte, parce que l'AS va nous dire, prenez en compte quand même, donc ça on va le prendre en compte. Mais les transitoires accidentels devraient être beaucoup plus sympathiques. Et on a notre fameuse quatrième barrière, les quatre barrières. Donc la troisième, c'est la cuve qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est une cuve métallique, soudée. Et là, donc, tout reste à l'intérieur et c'est dimensionné pour. Et après, on a une quatrième barrière, c'est l'enceinte béton à l'extérieur. Et comme c'est enterré, le béton sert la partie supérieure sert de dalle avion suffisamment épaisse. Voilà. Et puis après, ben, comme on trempe dans l'eau avec la nappe phréatique, on a des aménagements de génie civil qui nous permettent de contrôler, de suivre, de réparer sur le long terme si jamais il se passait quelque chose. Donc on est en termes de sûreté rejet radiologique, on est au début des études, hein, on n'a pas fini bien sûr, mais on le sent bien. Et donc se mettre près de sites industriels, ça nous semble, vis-à-vis de la sûreté, peut-être quelque chose de tout à fait jouable. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, on a enlevé l'eau et on a enlevé l'air, mais ça, je ne reviens pas dessus. Voilà, donc le bâtiment, il est ici. En dessous, il y a la partie infrastructure en bas qu'on a vu précédemment. La partie droite, c'est il y a un peu de ventilation. Il y a les locaux électriques, la salle de commande. Et comme on a deux cuves, finalement, on a deux process à suivre. Donc, au niveau salle de commande, on va bien faire attention de la séparation physique. Il ne faut pas qu'une cuve enfin, qui fonctionne agresse l'autre. Donc ça, on fait de la séparation franche. Voilà. Alors, et au-dessus, on a, alors je n'ai pas présenté, au-dessus, on a un bâtiment métallique qui est ventilé et qui est le hall de manutention et de maintenance avec un sas. Et donc les équipements sortent, on met les protections biologiques avant qu'ils sortent. On les met dans des containers un peu blindés. On met ça sur le camion et puis on évacue. Et on a en base centralisée arrière, on a une base chaude qui va recevoir les composants, le combustible aussi. Donc le combustible, je ne l'ai pas dit, mais quand on sort, la hotte qui sort le combustible met le combustible dans un emballage de transport. On en met 6 et ça part dans la base chaude où là on les lave et après on les envoie à la Hague, alors avec un stockage intermédiaire éventuellement. Donc le fait d'avoir, je ne sais pas si vous le sentez, mais le fait d'avoir cette base centralisée qui regroupe beaucoup, beaucoup de systèmes qui sont d'habitude affectés à chaque réacteur. Chaque réacteur a ses systèmes. Là, on en a un pour toute la flotte. Donc le prix unitaire du réacteur, toute la partie base chaude, vous l'amortissez sur l'ensemble du parc. Et là, au niveau économique, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est des avantages économiques vraiment intéressants. Là, on aura quelques camions de transport, bien sûr, à gérer. mais c'est pas des, c'est des petits composants, donc ça va on faut passer sous les ponts, voilà. Et donc ça c'est intéressant ça, comme au niveau économique.
Ah, peut-être je, oui alors la basse chaude c'est une très bonne idée, c'est une idée autant j'avais pensé la basse froide, autant j'avais pas pensé la basse chaude. Et donc ça, c'est une vraie avancée, c'est extrêmement intéressant et ça réduit encore plus les coûts. Donc ça, c'est juste une roadmap jusqu'à notre... Alors c'est un peu, c'est tout en anglais, excusez-nous. Jusqu'à notre premier de série, First of a Kind. Donc on est sorti, le preliminary design, c'est l'esquisse. On est sorti d'esquisse il y a une semaine. On est rentré en avant-projet sommaire, qui est le conceptual. On va rentrer en basique en début d'année prochaine. Et là, on se donne 2 ans pour faire le basique. Et après, on partira sur les études détaillées. Donc, le basique, pardon, c'est l'avant-projet détaillé. Et après, on se donne 3 ans pour construire le réacteur. Sachant qu'aujourd'hui, on a des études faites par le groupe CETEC sur l'ingénierie de génie civil qui nous donne pour le sortir le bâtiment réacteur. Et on a que ce bâtiment-là à sortir 1 an. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, en centralisant tout ça, on n'a pas un bâtiment, une piscine à construire, un bâtiment réacteur, des puits de lavage, etc., qui font que, en dehors du coût, du capex que ça a, c'est un temps de chantier extrêmement important. Et donc, nous, l'idée aussi, c'était d'essayer de regrouper les fonctions. Voilà. Donc, c'est vraiment un intérêt important. Et du coup, j'ai un petit clin d'œil, mais là, je vais juste... avec Régis, on s'était croisés à une réunion où je devais... passer mes diplômes de chef de projet Astrid, et j'avais présenté justement, je me souviens, préliminaire, etc., et je l'avais dit en anglais, et Régis m'avait posé la question, mais alors c'est quoi entre la différence, mais pour me taquiner, quoi, entre l'APS et le conceptual design, des choses comme ça, et je m'étais permis de lui répondre, ben ouais, il y en a un qui est en français, l'autre qui est en anglais, mais sinon c'est la même chose. Mais c'est un petit détail, mais ça me revient, voilà. Pardon de la petite private joke, peut-être juste sur le dernier slide, je crois que c'est l'équipe, je crois. Voilà. Bon, vous direz qu'au Tréra, c'est pas que quelque chose d'éthéré. Aujourd'hui, on est 23 salariés, plus des personnes qui nous aident. Et chez nos industriels, aujourd'hui, ça monte en puissance, mais on vise à peu près la même quantité. C'est-à-dire, grosso modo, le support d'au Tréra, aujourd'hui, c'est une cinquantaine de personnes. Voilà. Donc, avec des jeunes, des moins jeunes, un peu tous les parcours, et c'est extrêmement intéressant. Juste à souligner, donc, Rémi est là. Il y a Fabrice Bazodier qui était le chef de projet combustible au CEA. Donc en fait, je dirais entre Rémi, Fabrice, moi-même et puis quelques autres lascars qui traînent, on est quand même une bonne vision de notre groupe. On a des gens qui nous conseillent, ce qu'on appelle un advisory board. Hein, voilà. Je les cite parce qu'il y en a deux que vous devez connaître, qui sont Philippe Pradel, qui a été directeur des énergies nucléaires autour des années 2005-2006. 2007, là, quelque chose comme ça, et François Gaucher, qui a été le directeur d'énergie nucléaire, qui a porté le projet Astrid, enfin, il a été chef du programme RKG avant, c'est lui qui est venu, et donc, ces gens-là sont venus nous conseiller, parce qu'ils considèrent que cette vision du réacteur au sodium, c'est une vision qui est extrêmement intéressante pour vraiment le faire, et nous, si on s'est lancé, c'était vraiment pour le faire, voilà, c'est pas pour s'amuser. Moi, j'étais chef de département au CEA, j'aurais pu rester tranquille, chef de département au CEA. Je ne l'ai pas fait. Voilà, je crois qu'on a fini. Non, il y avait un dernier slide.
C'est aussi une école de formation pour les
oui,
jeunes.
Oui, c'est vrai.
On recrute des jeunes et les anciens sont là, donc ça va. Là, ils avancent vite. Hein. Non, s'ils sont bien drivés, ils avancent vite.
Et le dernier slide, c'est juste pour vous montrer simplement. Ah oui. Bon, il y a plein de, donc on est lauréat de France 2030, hein, donc un soutien de l'État jusqu'à 10 millions d'euros. Alors quand je dis jusqu'à 10 millions d'euros, ça veut dire que nous, il faut qu'on aille chercher 10 millions d'euros. Plus 10 millions d'euros de l'État, ça fait 20 millions et ça permet de développer des choses. Aujourd'hui, nous, on va chercher 2,5 millions. On est en train de finir de les chercher. Donc on aura en tout 7-8 millions pour démarrer et puis on va aller chercher de l'argent. Simplement pour vous souligner qu'à droite, on a quand même des partenaires industriels. Très intéressant, le Ekiom SNEF, NGE, qui est génie civiliste, le groupe Réel, que vous devez connaître, qui fait les machines de manutention du parc EDF, le groupe Atelier de Fosse, et l'ingénierie Fortil. Donc ces gens-là, en fait, ils préfigurent à la fois notre supply chain, mais donc ils ont investi hein, directement chez nous, ils ont mis de l'argent dans notre société, et nous, ça nous permet d'avoir des boucles très courtes de rétroaction, J'ai rien inventé, c'était un peu le programme Astrid, hein, mais c'était des partenariats. Alors les partenariats, fallait quand même faire. Il y avait un petit côté diplomatique là-dedans. Là, c'est du contrat. Quand on les fait travailler, c'est directement du contrat. Comme ils ont investi, ben, ils ont envie de travailler chez nous. Et donc, ça nous permet d'aller de suite nous poser des questions sur l'industrialisation. Est-ce que ça, on peut le faire, pas le faire, et faire des tests aussi avec eux. Donc c'est notre projet dans les mois qui arrivent. Voilà, et simplement peut-être un dernier truc dans les labels, il y a plein de labels. Bien sûr, on est labellisé par tous les acteurs du nucléaire, que ce soit Nuclear Valley, on est membre du GIFEN. Mais à gauche, on est aussi labellisé Green Tech Innovation, ce qui nous a valu de voir Madame Panier, la ministre Panier, une hachée il y a deux jours. Mais on est le seul réacteur labellisé Green Tech Innovation. Ça nous permet, alors ça paraît rien, et c'est important pour nous, c'est que ça nous permet d'être vu à la fois par les banques, par les acteurs, comme vraiment des acteurs de la décarbonation, au sens, je dirais, vu par eux, total, c'est pas bas carbone, c'est vous êtes green, donc ça veut dire que ça nous ouvre aussi ce qu'on appelle au fond un impact, mais aussi ça nous permet d'aller discuter avec les autres acteurs des ENR en particulier. Parce que si, enfin, moi, le constat que j'en ai fait, c'est qu'aller discuter entre nucléaire et pro-nucléaire et pro-ENR, ça marche pas. Mais discuter tous ensemble, c'est toujours un peu difficile. Enfin, même Cap Énergie, ils ont les deux branches, mais les gens se parlent pas trop. Et nous, avec ça, ben, on commence à pouvoir discuter avec les uns et les autres, et c'est très intéressant parce que de l'énergie, de toute façon, on en aura besoin, et on en a besoin au sens large. Je sais pas si vous avez vu les projections de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais grosso modo, la consommation électrique de Google, elle a été multipliée par 48%, et c'est lié à l'IA. C'est pas lié au fait au nombre de connexions. Je crois qu'une connexion IA, si vous posez une question à ChatGPT par rapport à faire une recherche Google, c'est je sais plus, 5 ou 6 fois plus d'énergie qui est consommée par les calculateurs, les serveurs, que tout ça. Donc voilà, nous c'est extrêmement important d'avoir ces industriels, d'être labellisés comme ça. Et donc nous aujourd'hui, notre objectif, hein, vous l'avez vu, c'est développer ce réacteur-là. C'est le construire, c'est l'exploiter. L'exploiter, on ne l'exploitera pas tout seul. Donc on verra après, l'histoire nous dira comment, avec qui, et de pouvoir l'exporter en Europe et au-delà de l'Europe. Hein, donc voilà. Et ça, l'enjeu, on en a à peine parlé, c'est que autant en France, en Europe, du combustible au plutonium, on peut penser qu'on peut le faire et qu'on peut avoir un circuit court européen. Bon, en dehors de ça, aller vendre des combustibles au MOX à l'extérieur de l'Europe, ça paraît difficile. Mais notre réacteur, on l'a dit, on l'a peut-être à peine dit, mais il a des teneurs en plutonium qui sont de l'ordre de 15% en plutonium. Donc, on réinvente rien. Hein. On peut les faire tourner à l'uranium 235, faiblement enrichi, et ça, on peut commercer avec. Hein. Donc, c'est le fameux HALEU. Et pour rappel, le premier cœur de Phoenix, si je ne me trompe pas, il a démarré moitié uranium, moitié plutonium, parce que justement, on n'avait pas de plutonium. Donc, voilà, si on se remet tout ça en route, on se dit que Autrira, ça, c'est à la fois une solution technologique, c'est une ambition, et c'est une vraie volonté française. Et juste pour terminer, tous les industriels qui nous accompagnent et tous les fonds qui ont investi chez nous sont français et sont détenus, et les boîtes sont détenues soit par leurs salariés, soit par de l'actionnariat français, voire de l'actionnariat même familial, quoi, voilà. Donc merci beaucoup, et puis on est ouvert à toutes questions. Non, je ne comprends pas.
Question ? Non, mais on n'a pas assez long de fil, mais bon, on répercutera les questions, donc allez-y, posez des questions, s'il vous plaît. Oui.
Avec les échangeurs.
Tout compris, hein, cuve échangeur.
Cuve échangeur.
Non, c'est pas très.
Et enceinte rapprochée.
Et enceinte comprise.
C'est pas très. Avec les trois barrières, grosso modo.
Non, on n'est pas dans les 3000 tonnes historiquement. On n'est pas dans.
La cuve de mémoire, elle fait la cuve, la partie basse de la cuve fait 2,36 mètres de diamètre aujourd'hui. Elle fera dans les 1,5, 1,8 d'épaisseur et elle fait 6 mètres de haut. Donc je crois que ça fait 22 tonnes, la cuve.
Non.
Oui. Alors on n'a pas tout, on n'a pas présenté de détails d'image parce que c'est un peu confidentiel quand même.
En fait, on dépose des brevets là, sur tout ça, donc c'est un code.
Voilà. Mais on peut quand même dire, c'est que le contrôle neutronique, il est fait par l'extérieur du cœur dans le collecteur froid. Et donc, on ne traverse pas du tout la cuve. Alors, on a mis des motorisations de commande en partie haute pour la problème de maintenance. Donc, on a des petites traversées qui montent. Mais on est à 400 degrés, là. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Et puis, l'autre gros avantage qui nous a fait souffrir sur Phoenix, Super Phoenix, Astrid, EFR, et qui nous fait encore souffrir, c'est la partie, ce qu'on appelle le BCC, le bouchon couvercle cœur, qui est au-dessus du cœur et qui est dans le jet sodium à 550, 560 degrés, là, même un peu plus quelquefois. Et nous, on a un cœur qui est ouvert, qui n'a pas de tubes hexagonaux, donc on n'a pas à surveiller chaque assemblage, puisque l'assemblage, tout est ouvert. Donc on a simplement installé quelques thermocouples en partie supérieure pour la sécurité. Donc c'est quelques thermocouples, alors quelques, c'est beaucoup moins que par le passé. Et donc on n'a pas de structure au-dessus qui serait sensible au niveau thermomécanique comme l'était, comme sont les réacteurs intégrés. Donc là on est bien. Et le bouchon, lui, il a, en termes de fonction mécanique, il a juste il y a une pression qui est très faible en sortie et il est chargé juste thermomécaniquement, mais ça, en termes de dimensionnement, on n'est pas inquiet. On a vu pire sur les réacteurs intégrés.
On n'est pas en pression hein, sur ces réacteurs au sodium. On n'est pas pressurisé, en fait. Ça, c'est clair, en fait. C'est pour ça qu'on a des coques minces, etc.
Voilà, c'est... Le REX depuis Super Phoenix, 316 LN.
Voilà.
Austénitique, 316 LN. Là, on ne bouge pas. Hein. Là, on ne va surtout pas partir sur de nouveaux matériaux. Là. On récupère tout le REX.
Donc, quasiment que de l'inox, là on pourra peut-être en éviter, on évitera, et sur la gaine de l'AIM1, ce qu'on fait, pour le REX matériau, en fait, vous êtes sûrement plus sachant que moi sur ce sujet-là, mais le développement matériau, c'est toujours des choses très longues, c'est des temps longs, ça demande de la qualif, ça demande du temps. Là, on s'est vraiment calé sur le REX français, et ça c'est un vrai plus, parce que ça, on a des milliers d'heures de fonctionnement en France sur ces réacteurs-là, on a du REX, on a analysé. Donc c'est pour ça que les réacteurs au sodium, c'est une vraie chance française, parce qu'il y a eu tout l'investissement sur les années précédentes, avec plus ou moins de réussite, mais il y a un REC qui est énorme, et on a c'est comme ça qu'on va pouvoir accélérer, parce que si vous voulez, il y a plein de sujets, il y a plein de propositions qui arrivent, qui sont intéressantes, mais qui vont demander du temps. Voilà.
Ce qui nous rassure, c'est de voir le fonctionnement des réacteurs russes BN600 et BN800. BN600, ils prolongent à 60 ans et après ils envisagent même d'aller au-delà. Et ils marchent parfaitement. Quoi. Donc il n'y a pas de raison que les nôtres ne marchent pas, hein, si on les laisse fonctionner.
Quel plaisir.
D'autres questions? D'autres questions? Moi j'en ai une. Bréchet qui se répand dans tous les médias en disant c'est une connerie d'avoir arrêté Astrid. Qu'est-ce qu'il dit de votre projet?
Yves Bréchet, moi je l'ai rencontré, mais on ne s'est pas revu. Il ne connaît pas en détail le projet, en fait. Mais par contre, François Gaucher le connaît bien, le projet. Je pense qu'il a gagné quelques connexions avec Yves. Mais l'idée, c'était de... au-delà de Yves Bréchet, c'était de nous confronter aux experts du sodium, en fait, des Rémi Duprat, même des Joël Guidez, pour ceux qui le connaissent, des spécialistes des matériaux, des spécialistes des matériaux, du comportement thermomécanique du combustible, enfin, des experts, pour la plupart CEA, mais aussi des experts d'EDF sur l'exploitation. Quel est le risque d'exploitation d'EDF? Par exemple, nous, en fait, vous voyez, notre réacteur, il fonctionne pendant 10 ans, le combustible refroidit pendant 5 ans, au même endroit, donc quelque part, on va faire des opérations de chargement-déchargement tous les 15 ans. Vous rendez bien compte que déjà sur un REP, on le fait tous les 18 mois et les équipes d'exploitation, elles sont comme ça parce que c'est fréquent mais pas suffisamment fréquent. Si vous faites tous les 15 ans, les gens, ils devraient apprendre. En fait, même, c'est même pas les mêmes, hein. Celui qui aura chargé le combustible, ce sera pas le même qui le décharge. Donc nous, on a une vision de flotte et en fait, c'est des équipes dédiées. Et ça, c'est en discutant avec des experts d'EDF, par exemple, de dire, ben, ça, c'est intéressant d'avoir des gens qui ne feront que ça. Du chargement, déchargement, sur tous les parcs d'Autréan, en tournant. Et du coup, on est allé plus loin. La machine de manutention, elle est même pas sur le réacteur, en fait. Et ça, c'est intéressant. Alors, on peut se dire en France, ça va, on a confiance, mais si vous voulez aller vendre des machines à l'extérieur, la question de non-prolifération, safeguard, etc., etc., c'est très important. Nous, on est en capacité à pas laisser la machine de chargement-déchargement à l'exploitant. Ça va loin, parce que ça veut dire qu'on lui donne même pas la technologie, en fait, de chargement-déchargement. Alors, en termes de business model, mes financiers sont tout contents, mais ils disent, ah, c'est super, c'est un marché captif, faire plein de fric avec, mais c'est pas ça l'idée. C'est surtout de dire, on va valoriser, on aura des équipes toujours à pied d'œuvre pour charger, décharger, et pour les questions de prolifération, on peut avoir des idées de fonctionner en QFCD, et des équipes Autréa viendraient charger, décharger, et c'est tout. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est un paradigme assez nouveau. Voilà.
Et les équipes arrivent, on siffle quand on veut faire le déchargement, les équipes arrivent, sont formées, parce que dans la base chaude, il y aura des installations d'essai pour former, requalifier les machines. Et tout le matériel qui arrive, il est requalifié. Donc quand le matériel arrive, la checklist est toute prête, les machines sont qualifiées, les opérateurs sont qualifiés, opérationnels. Donc ça, c'est rêvé pour un exploitant.
Donc tout ça pour les experts, on est allé aussi chercher des experts du nucléaire, mais en dehors du monde du RNR, pour avoir du retour d'exploitation. Bien sûr, on a pris du retour d'exploitation d'Astrid, et de Superphénix, pardon d'Astrid, de Phénix et de Superphénix, mais aussi du parc EDF, quoi, des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pas faire, etc. Donc voilà, donc on est entouré d'experts. Pour Yves Bréchet, on n'est pas allé plus loin que ça. Bon, on pourra discuter avec lui à l'occasion, ça sera avec plaisir. C'est un très bon scientifique.
Je réponds à une question que vous n'avez pas posée. C'est un petit réacteur, c'est quelle puissance versus les grosses puissances. Et donc on réfléchit beaucoup à ça. Et donc notre réacteur, effectivement, il ne fera jamais 1000 MW. Hein. Ça c'est clair, ça serait beaucoup trop. Ce serait trop gros. Quoi. Après, on n'a plus tous les avantages, on les perd. Donc l'idée, c'est pas ça. L'idée ici, il y a deux cuves. On regarde maintenant la trois cuves. Qui va être très intéressant. C'est-à-dire qu'on a toujours deux qui fonctionnent en même temps. Donc ça fait déjà 120 MW électriques, plus la chaleur. Après, l'empreinte au sol n'est pas très grande, donc vous pouvez en mettre quelques-uns, ça fait de la puissance. Voilà. Donc on peut faire de la puissance comme ça.
Et ça, il y a l'enjeu des SMR là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez un châtier de 3 ans, vous installez, par exemple, si on arrive à faire deux cuves qui marchent, une cuve à l'arrêt, c'est ça notre idée. Vous installez de l'ordre de 250 MW électriques en 3 ans, et donc vous décalez le chantier d'un an, et donc vous arrivez très très vite quand même à installer de l'ordre de 1000 MW en quelques années, et surtout d'avoir déjà produit 250 MW. Vous n'attendez pas les 7 ans ou les 8 ans pour commencer. Et ça, en termes de montage financier et de financement, plus vous avez de temps de chantier, plus vous avez d'intérêt intercalaire, plus vous avez des taux qui s'envolent, etc. Donc, pour la maîtrise des coûts des réacteurs, plus on fera simple et plus on arrivera à produire tôt, c'est très très important. Et qualifier une usine, très très important. On a des composants courts. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous de qualification, un max à l'usine.
Est-ce que vous avez déjà exploré des industriels qui seraient intéressés par votre concept?
Alors, les clients?
Oui.
Ouais. Donc ça, c'est un enjeu, alors tout le monde court après. Toujours pareil, au début, plutôt prudent. Donc, pour la réponse est oui. On s'est présenté plutôt à des acteurs, des gens qui font des métaux, parce que c'est des électro-intensifs et eux, ils ont besoin. Enfin, En fait, quand on se rapproche des industriels, pour tout vous dire, au début, nous, on pensait qu'ils avaient besoin d'électricité ou de chaleur. Et en fait, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Et à un prix donné. En fait, quelque part, c'est ça. Ils disent, ben voilà, vendez-moi votre énergie à 60 mégawatts, la totale, entre guillemets, que ce soit chaleur et électricité, moi, ça m'intéresse. Et donc nous, en effet, on discute avec des industriels. Alors, comme on est sous non-disclosure agreement, etc., mais il y en a certains qu'on peut nommer, des métallurgistes comme Alteo, des transporteurs maritimes comme CMA-CGM, d'autres grands acteurs, mais pour l'instant, on ne peut pas en parler, mais on discute avec eux. Et nous, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ça nous permet à la fois de... c'est quand même pas rien de dire qu'on va prendre la charge fatale de réacteur pour l'amener chez un industriel. Alors elle est fatale, donc elle n'est pas du tout nucléaire, elle est loin, etc. Mais quand même, c'est la source froide du réacteur, donc il y a des enjeux de sûreté, il y a des questions qui se posent, etc., etc., etc. Donc pour nous, c'est super intéressant pour à la fois cibler quelles seraient les bonnes puissances, cibler quel serait le montage industriel global dans le périmètre. Donc il y en a qui sont dans le nord, il y en a qui sont dans le sud, d'autres au milieu. Enfin, voilà. Mais voilà. Par contre, nous aujourd'hui, on cible pas des petits industriels, alors l'industrie papetière dans le nord de l'Europe, ça nous intéresse, mais parce que c'est des grosses puissances. Mais par exemple, les sucriers, c'est trop petit. Enfin voilà, notre réacteur, on pense qu'en dessous de, peut-être qu'on pourrait le descendre à 200, on peut le descendre à 200 mégawatts thermiques, donc quelque part à 80 mégawatts électriques, mais ça reste quand même une puissance non négligeable. Donc c'est aujourd'hui, on sent bien qu'on n'ira pas sur, on va pas sur le marché du micro-réacteur. Voilà. Parce que il y a un autre enjeu dont on n'a pas parlé. Peut-être je parle trop, hein, mais c'est la sécurité, parce qu'on parle de la sûreté. Mais en fait, la question aussi, c'est les agressions, c'est-à-dire comment je vais gérer tout ça. Plus on fait des réacteurs, plus et pardon de le dire, mais plus un réacteur est petit, mais plus il est facile d'accéder aux endroits qui font mal du réacteur. Donc les micro-réacteurs, il va falloir quand même qu'il y ait une réflexion très claire sur la sécurisation de ces systèmes-là. Nous, simplement pour vous indiquer que notre enceinte rapprochée, là, qui est notre troisième barrière, le bâtiment, la quatrième, elle a deux fonctions. Elle a une fonction sûreté en cas d'agression interne, un accident, rien ne doit sortir, mais en cas d'agression externe, si vous voulez, là où des gens mal intentionnés penseraient arriver sur une petite cuve, voilà, il faut un trou dedans, on fait une méthode explosive, etc. Là, il va se retrouver face à un système qui est extrêmement sécurisé, très internalisé, et qui résistera. Donc voilà, donc il y a ces enjeux. Les enjeux de sécurité sont, à mon sens, un des points clés aujourd'hui du développement de ces petits réacteurs. La sûreté, tout le monde y arrivera d'une façon ou d'une autre, mais la sécurité, c'est autre chose.
D'autres questions? Oui?
On embarque une inertie électrique, alors on n'a rien inventé, c'est Crémalville. Hein. Donc vous avez un alternateur, un moteur, un alternateur entre les deux, vous avez un volant d'inertie, vous alimentez vos pompes, et tout ça, ça ralentit avec une demi-vitesse à 12 secondes. Voilà. Après, on va regarder de près le transitoire sur le cœur, mais là, il faut quand même faire attention. Ouais.
Donc on sait qu'en effet, comme on est plus compact, on aura moins d'inertie. Et donc c'est un sujet qu'on regarde. Par contre, la géométrie des échangeurs versus le cœur, c'est-à-dire on a des échangeurs qui sont très très hauts par rapport au cœur en fait. Donc ça c'est très favorable à l'amorçage de la puissance résiduelle, qui est une vraie question dans les réacteurs intégrés où en fait les EI plongent assez bas vis-à-vis du cœur. Il y a des boucles qui se font. En fait, l'amorçage est compliqué. Là, l'amorçage devrait le faire assez facilement.
Donc il va être passif.
Voilà.
Dans les années. Question sur le combustible. Donc, tu as parlé à peu près de 15% de PLU. Est-ce que c'est compatible déjà aujourd'hui avec l'usine MOX
Alors, oui, vis-à-vis de Mellox. Alors, vis-à-vis de Mellox, dans le cadre Astrid, on a fait des pastilles à 25%. On a fait au CEA, on en a fait sur Mellox. Non, aujourd'hui, je crois que l'autorisation pour la production industrielle, c'est 12%. Donc non. Les futures usines qui sont en cours de construction sont plutôt des usines REP, mais pourraient monter autour de 14, 15. Et là, ça commence à nous gratter de se dire... Donc on discute avec Orano, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais il y a un sharing group, un groupe de partage pour l'ensemble des utilisateurs du MOX qui regroupe Nucléo, Exana et nous. Et nous, on les challenge sur leur dire, mais écoutez, vos deux chaînes REP que vous devez produire, nous, si on pouvait rentrer pas très loin des specs, ça nous intéresserait beaucoup. Voilà. Et alors, il faut savoir, dernière chose, ce que nous dit Orano, c'est que au premier ordre, une usine de fabrication de combustible MOX, son coût, il est lié à la teneur en PU. Et donc, plus vous irez chercher de la teneur basse, et plus le coût de l'usine serait... Alors ça, on ne le savait pas, hein, c'est une opportunité pour nous. Mais nous, comme on est sur des teneurs assez basses, ça aussi, c'est intéressant. Qui est légèrement positif aujourd'hui. Alors, comme j'avais inventé le CFV, on peut le reproduire, hein, le modèle d'Astrid, on peut le reproduire. Mais en fait, on se pose la question de, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'autant une bulle, je rappelle, dans un réacteur neutron rapide, on a un soumis qui est sous pression, les pompes poussent dedans, sous pression, et donc on se dit, il y a des bulles qui peuvent se caler dessous, puis d'un seul coup, on en relâche une sous le soumis et ça repasse. Et surtout, ça va passer dans un tube. Là, on n'a ni soumis, on n'a pas, c'est juste en retournement, on n'a pas de soumis sous pression. Et on n'a pas de tube. Donc on se dit, on va discuter avec l'ASN en fait. On va leur dire, écoutez, nous, là, franchement, un passage de bulles, des petites bulles si vous voulez, mais il n'y a pas de raison, on fera des démonstrations électroniques, mais normalement, il n'y a pas de bulle. Déjà, il y avait la bulle intelligente hein, dans le cadre de Super. Voilà. Donc, là, il faudrait qu'elle soit très très intelligente, mais. Ouais. Alors, Newhart, justement, en fait, quelque part, l'enjeu de prendre un réacteur de génération 3, quelque part, et on voit bien que les autres acteurs font ça, ils vont prendre des choses sur étagère, parce que, justement, il y a tout, on a tout sur la troisième génération, pour le coup. Alors, il faut peut-être faire un peu de downsizing, peut-être que ça sera pas, on sera un peu moins compétitif, mais on sera plus petit, on pourra fabriquer une usine. Rolls-Royce, GE, enfin voilà, eux, ils reprennent des trucs existants. Et donc, ils vont arriver beaucoup plus vite sur le marché parce que la qualité va être limitée. Là, c'était très techno-push New World avec la chaudière de Technicatome, qui est super intéressante, hein, mais qui avait des composants innovants en particulier. Donc, en fait, eux, ils ont fait, New World, il a fait exactement le même chemin, il a fait le chemin inverse de nous. Nous, on a transformé un RNR en petit REP, quelque part, par ça. Hein. Eux, ils ont fait un REP qu'ils ont transformé en RNR en l'intégrant. Et donc, du coup, donc, en termes de sûreté, c'est intéressant. Il n'y a plus de rupture franche de tubulure primaire, parce que les tuyaux qui sortent de Newhart, en primaire, c'est maximum, en pression primaire, c'est maximum 3 cm. Donc, enfin, c'est super intéressant. Mais du coup, ils avaient cet échangeur qui ressemble un peu au nôtre, hein, mais qui était en titane. Nous, il était en inox. Parce que le CEA, c'est soudé, c'est genre de. C'est soudé ça. C'est le Litten a des brevets là-dessus. Donc, et surtout, nous, il est en sodium. Eux, il est en eau avec un changement de phase. Et donc, ils sont payés de la corrosion sous contrainte, en fait. Voilà. Voilà. Donc, il y avait ça. Et alors, moi, pour être. Vu le projet de Newhart, hein, très intéressant, mais il y a eu une mauvaise intégration. Il y a eu deux choses. On peut en parler. Il y a Technicatome, parce que moi il y avait des gens de Technicatome avec moi dans l'équipe, et donc presque ils me sautaient au cou, mais pas pour m'embrasser, mais plutôt pour m'étrangler, en disant, et moi j'étais, parce que j'avais la démarche de cost killer, quoi, moi je voulais aussi réduire le coût, et me dit, ah mais non, le RGH c'est la faute du CEA, si on n'arrive pas à le faire, c'est parce que vous avez voulu réduire la taille du génie civil de 20%, c'était une erreur, etc., c'est votre faute. Donc ça c'était le message de Technicatome. Welcome, donc c'était bonne ambiance, on imagine bien au début. Mais la question, en fait, c'est que du coup, ils ont relâché complètement la contrainte sur le GC. C'est EDF qui l'a pris. Ils ont fait un truc, regardez, si vous avez les plans de masse de Newhart, c'est quasiment la taille d'un EPR, c'est 40 hectares. Donc c'est un truc, c'était pas compétitif. Donc ils ont mis du temps à s'en apercevoir. Donc aujourd'hui, Là, il exit la chaudière Technicatome, exit les équipes Technicatome. La suite, c'est alors soit c'est Framatome qui reprend vraiment la main et qui fait un petit, qui prend une boucle de PR2, quoi, limite, pouf, un GV, machin, voilà, ça serait le plus simple à mon avis. Ou alors va se passer des deals avec d'autres acteurs européens ou américains, comme ça avait été à un moment envisagé avec Westinghouse. Ça, je sais pas. Non.
Ce serait bien pour les gens qui ne sont pas très initiés, redit deux mots sur ce qu'est le RJH et pourquoi il y a des problèmes. Voilà.
Ouais, pourquoi il y a des problèmes donc. Un réacteur Jules Horowitz, c'est un réacteur de test matériaux prévu pour qualifier des matériaux et produire des isotopes médicaux qui est sur le centre de Cadarache et qui donc qui est sous maîtrise d'ouvrage CEA et maîtrise d'œuvre, enfin, qui était sous maîtrise d'œuvre à Technicatome. Maintenant, on a un peu mélangé les équipes pour faire la paix. Mais c'est un réacteur de complexité. Alors, il y a deux choses. On a fait, alors je veux dire peut-être un peu pour taquiner, mais on a fait un réacteur rapide, donc un neutron rapide, à eau. Voilà. Et ça, c'est vrai. Donc, il y a très peu d'eau, en fait, dans le réacteur, qui se trimballe très très vite dans le réacteur, donc il est pressurisé. Et donc, ça crée des problèmes de mécanique, entre autres, etc. Mais voilà. Et alors, on a gardé ce cahier des charges des réacteurs rapides. On ne l'a jamais enlevé. Je pense qu'il aurait fallu le faire sauter, moi, parce qu'en fait, on peut irradier à des spectres rapides, mais on ne peut pas irradier grand-chose. Enfin, ça sera du matériau de démonstration. Et ça, c'est resté dans le cahier des charges. Je n'ai pas vraiment trop compris pourquoi. On a conservé ça dans le cahier des charges. Donc. Par contre, c'est une magnifique machine. Enfin, quand ça va fonctionner, c'est un truc d'enfer. Enfin, on pourra faire des essais qui seront très 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 bien. Et moi, je le dis pour peut-être sous forme de boutade, mais je dis que le réacteur est Jules Horowitz, c'est d'autant plus compliqué qu'il est fait pour tester des matériaux pour des réacteurs qui seront d'autant plus simples que le Jules Horowitz, c'est plus compliqué. Voilà. Comme on aura pu faire des trucs un peu tordus dans Jules Horowitz, on pourra faire beaucoup plus simplement dans les réacteurs futurs. Mais moi je vous engage à le visiter quand même, c'est quelque chose, c'est quand même c'est une future très belle machine.
Parce que quand on y va, on est dans le bus, on dit, vous voyez,
il faut rentrer. Ah. Non, il faut rentrer.
Bon, moi j'en sais pas plus, hein, ouais. Voilà.
Non, ça avance, enfin, Rémi était dans les équipes, moi j'ai sur la dernière partie de ma vie au CEA, j'étais chef d'un département d'ingénierie, nucléaire civil et donc j'étais vraiment impliqué, mes chefs de projet étaient là-dedans. C'est compliqué, il y a beaucoup de difficultés encore, mais voilà, ce réacteur-là il s'est développé alors que le nucléaire était au plus bas, donc il y avait la supply chain, elle était là ou elle n'était pas vraiment là, un cahier des charges très élevé. Peut-être un démarrage trop tôt alors que les études détaillées n'étaient pas vraiment en réalité, donc et voilà, on refait les plans, on refait les choses, voilà, donc tout un tas de choses. On les oubliera, je pense, quand il aura divergé, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très bon pour la démonstration de la filière. Enfin, entre le chantier de Flamanville, hein, qui a duré quand même beaucoup plus longtemps que prévu, et RJH, voilà. Bon, on est content que l'État français se rende compte quand même de l'utilité de des réacteurs au sens large et du nucléaire. Et réinvesti, mais les dernières démonstrations qu'on a faites, elles ne sont pas quand même. Voilà.
Bien.
Oui, c'est vrai.
Donc, je vous propose de remercier nos intervenants, parce qu'on a fait une découverte. Hein. C'était fait pour ça, d'ailleurs.
D'accord.
C'était bien l'objectif. Même si on ne peut pas dévoiler trop, parce que c'est la phase d'étude, bien sûr. Mais enfin, on en sait suffisamment pour ceux qui connaissent un peu le sujet, pour dire on comprend un peu mieux comment ça va être fait. Voilà. Donc, on va les remercier. Et avant de partir, je vous rappelle que vous êtes astreint à ranger les chaises pour qu'on replie toute la salle correctement. Donc, merci de nous aider pour le faire. Nous, on s'occupe du matériel de projection et merci de ranger les chaises. Voilà.
Merci. Ah, merci. Pardon.